Vas-y, bouge-toi.
La flemme, sous pas.
Mais on va perdre notre travail.
J'ai pas envie, je me fais trop vieux.
Mais on va finir à Pôle emploi.
Ben, on y finira.
On est très inquiets.
On a perdu Mickey.
On a perdu Garfield.
On est sans nouvelles de...
Mimi.
Ils ont arrêté de bouger.
Du coup, ils ont perdu leur boulot.
Il paraît qu'ils sont tous à Pôle emploi.
La troisième heure du collège de Lansard vous propose une émission sur le thème
Bouger.
Bouger, se bouger.
Remuer son cerveau.
Bouger, ses mentalités.
Ça va déménager.
Ça va déménager.
Avant, j'habitais à Lansargues et je venais au collège à pied. C'était bien. Je partais avec mes amis et en 10 minutes, on était au collège. Mais il y a 2 ans, j'ai déménagé à la Grande Motte et puis après, encore plus loin, au Gros du Roi. Depuis, j'ai dû me consacrer à du temps perdu. Tous les matins, mon réveil sonne à 5h moins le quart. Mon bus part à 6h15. Il fait Aigues-Mortes, Saint-Laurent-des-Gouzes et après, je regarde même plus. Mais je crois qu'il doit faire tous les arrêts du Gard. J'arrive à Lunel à 7h45 et je prends un autre bus jusqu'au terminus. Je passe ma journée au collège et le soir, je reprends les bus et les bus. J'occupe mon temps avec mon téléphone. À 6h15, il est à 100% et quand j'arrive au collège, il n'y a plus de batterie. Le pire, c'est quand ma mère me punit de téléphone. Là, je suis obligée d'écouter la radio du chauffeur. Et c'est souvent du classique. Déjà que le matin, c'est fatigant, alors là, c'est la mort. Ma mère avait choisi de me mettre dans un autre collège. Mais je l'ai suppliée de ne pas me changer de bahut. Elle m'a dit « Ok, mais à toi d'assumer les conséquences. » Moi, j'ai quand même voulu rester au collège de Lansargues parce que j'ai déjà vécu des déménagements, des changements d'école, et je sais comment ça peut faire mal. Je viens de Picardie, et ça a bousculé ma vie. Je préfère me bouger loin, donc me consacrer à 4 heures de temps perdu tous les jours, que de tout chambouler encore une fois. Je me sens trop bien ici.
Nous allons arriver dans, allez, une minute au Palais des Sports, voir notre champion judoka.
Vas-y, Jacques, mets la musique de...
Je vous voyais ou pas ?
On est arrivé devant les portes du Palais universitaire des Sports à Montpellier. Voilà. Il y a des gens qui jouent du basket.
On voit des gens au sol à la perche.
L'athlétisme.
Et on va se diriger vers Benjamin Théoul, le judoka qu'on va interviewer.
Allez, tape sur l'article, allez, décale. Sur les côtés, change, plus rapide, plus rapide, encore, petit, encore, tu décales. Allez, fort, rapide sur les appuis, tu tiens, tu te laisses pas volonté. Encore, tu tiens, 5 secondes, 3, rapide, petit pas, 2, 1, top, récup.
Tu enchaînes 10 secondes de talons fesses comme ça, rapide, et 1,
et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et top récup. Très bien.
Ah, ça sera bon.
Et on passe sur nos étirements. Bien.
Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, je m'appelle Benjamin Théoul, donc moi je suis journaliste. À côté, je suis judoka, sportif de haut niveau. Je suis sur le circuit handisport parce que j'ai un problème de vue très important, je suis malvoyant. Je suis aussi sur le circuit valide, le circuit de tous les judokas. Et en parallèle, donc, je suis sélectionné, je suis membre de l'équipe de France de judo en e-sport. J'ai gagné il y a peu les championnats de France en e-sport, qui m'a offert la possibilité d'aller en tournoi international ce week-end en Allemagne. Donc je ne suis pas professionnel, ce choix je l'ai accepté, on me propose un projet sportif, mais je l'aménage autour de mon métier de journaliste. Donc tout à l'heure on parlait de l'emploi du temps, des fois il est un peu bouleversé aussi, parce que je ne suis pas payé à m'entraîner. C'est un choix que je fais, et mon métier reste le journalisme.
Comment vous sentez-vous après un entraînement de 50 minutes ?
Là ça va mieux, parce que je récupère assez vite, mais dès que ça s'arrête... Ça tape un peu, quoi. On est un peu fatigué. J'aurais pas fait ça non plus pendant une heure et demie.
Combien de temps avez-vous mis pour accepter votre handicap ?
Alors, pour en parler un petit peu, donc ça arrivait à l'âge de 13 ans, un peu du jour au lendemain. Donc à cette période, c'est un peu compliqué, parce que même si je suis pas aveugle, j'y vois malgré tout et faiblement. Donc il y a des contraintes de lecture, de déplacement, je conduis pas, etc. Ça va, je suis autonome, mais il y a des contraintes. Et quand ça arrive du jour au lendemain à 13 ans, c'est un peu difficile. Donc c'est un apprentissage un peu permanent qui va à peu près jusqu'à 18-20 ans. Et puis après, au fur et à mesure, tu t'aperçois que tu arrives à faire des... Tu fais tes études, bon c'est un peu plus compliqué, mais il y a des équipements techniques, des loupes électroniques qui filment le texte et qui le reportent en gros sur l'écran. Donc tout ça, tu peux y arriver, voilà, il y a les transports en commun, etc. Après, il y a le judo, j'ai jamais lâché le judo, je faisais du judo avant l'handicap, je continue à faire le circuit, puis un jour, je suis devenu ceinture noire. Donc à partir de là, tu fais un gros pas en avant pour l'acceptation du handicap. Et puis ensuite, ce qui m'a permis d'accepter, une fois que j'étais ceinture noire, le projet de l'handisport. Parce qu'avant, il était hors de question d'entendre parler d'handisport. Comment ça, handisport, moi je suis handicapé. Non, handisport, non, pas du tout. Et là, à partir de là, une fois que j'étais ceinture noire, que je commençais à gagner des compétitions, je pouvais m'intéresser à ça. Donc, puis après, c'est un apprentissage permanent et quotidien, quoi. Puis maintenant, voilà, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne continuation.
Merci, bah là ça va être à la douche et puis on va repartir
et
au
une
travail.
Pour vous ce week-end.
Merci beaucoup.
Le judoka qu'on a rencontré a accepté sa maladie quand il a commencé à réussir des choses dans la vie. Moi ça me fait pas ça. Le jour où j'ai eu le diabète, tout a changé dans ma vie. Je ne pouvais plus trop jouer avec mes sœurs parce que je fatiguais vite. Les jours de fête, je n'avais pas le droit de profiter des apéritifs. Du haut de mes 5 ans, je devais manger ma ration et ensuite je regardais les autres manger. Je me sentais rejetée. Et c'est toujours pareil. Si je veux manger davantage ou en dehors des repas, je dois me faire une piqûre supplémentaire. J'ai jamais accepté ma maladie. En même temps, dans ma vie de tous les jours, bizarrement, j'ai l'impression d'être privilégiée. Souvent, je fais râler les autres quand j'ai une hypoglycémie. Parce qu'à ce moment-là, j'ai le droit de manger des sucreries. Et des gâteaux. Les autres me regardaient manger, comme moi je les ai regardés pendant qu'ils mangeaient. Avant, je faisais parfois semblant d'être pas bien. Les maîtresses étaient en panique. Elles appelaient les urgences, les médecins, et elles étaient perdues. Ça m'amusait de les voir dans cet état. Et puis c'était une façon de me venger de toutes les fois où elles étaient trop sur moi, en me disant toutes les 5 minutes, ça va, laissez passer la diabétique en premier. J'avais l'impression d'être un nouveau-né. Elle me laissait pas vivre. Ma maladie m'a rendue autonome, plus en avance que les autres de mon âge. Mais elle m'a aussi enlevé une partie de ma jeunesse. Sans le diabète, j'aurais eu une meilleure vie. J'espère qu'avec le temps, les choses vont bouger. J'espère, comme le judoka, accepter ma maladie un jour. Ouais, j'espère.
Se crispe, mon cœur brûle, je suis pris de panique, faut que tu m'expliques. J'essaye de m'accrocher, me remonter, mais depuis tout ce temps je fais que couler.
Dans ma vie, je vais atteindre les sommets. Et par quelle porte vais-je passer? Je suis déter, j'en ai marre d'être jeté. Je veux pas tricher, mais m'arracher pour m'envoler. Parfois je me sens si seul, appelle-moi solitaire. Il y a aucune lune qui m'éclaire, aucune thune pour me distraire. Je me démerde, je me démène, c'est toujours la même scène. Quand mon cœur lui-même saigne. Je me souviens encore quand j'étais petit, je rêvais d'un infini. Trouver un médicament pour que papa et maman puissent vivre une décennie. Bouge-toi, pour ce en quoi tu crois. Sébastien, 16 ans.
Je suis né à Castelo Branco au Portugal. Mes parents m'ont dit qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de travail au Portugal et qu'ils avaient besoin d'argent pour me nourrir et pour avoir une maison. Alors ils sont partis en France pour aller travailler. Je suis resté au Portugal avec mes grands-parents. Mes parents sont venus me chercher un an plus tard. Quand j'ai eu 3 ans, je suis allé à la maternelle en France. Et je parlais pas un mot de français. Quand la maîtresse nous disait s'asseoir, moi je restais debout devant tout le monde. J'arrivais pas à communiquer avec les copains de ma classe. C'était compliqué. Je demandais à mon père quand il m'amenait de leur traduire ce que je voulais leur dire. Mais après, ils partaient au boulot et moi, je devais me débrouiller tout seul. J'étais un peu agressif. Cette situation me mettait mal à l'aise. Un jour, un élève a pris une de mes voitures. Alors je lui ai lancé au visage celle qui me restait dans la main. Et je lui ai cassé la lunette. Ma maîtresse a convoqué plusieurs fois mes parents. Ils en avaient marre à force. Alors ils ont commencé à me parler en français. Je pense qu'ils ont bien fait. Parce que c'est comme ça que j'ai appris le français. Petit à petit, mon caractère a beaucoup changé. Je parle mieux aux gens. Quand je suis devenu plus calme, on a recommencé à parler portugais à la maison. Et ça me plaît. Je suis content qu'on soit venu en France, même s'il y a eu des moments très difficiles. J'adore aller au Portugal pour les vacances, mais je préfère vivre en France.
C'était pour vous.
Ah bonjour, on voudrait savoir où est le bâtiment 25.
Là, nous sommes ici, d'accord. Donc vous traversez le bâtiment administratif. Le 25, il est ici.
Ok, merci.
Voilà, c'est carrément tout au bout.
Merci.
Merci, au revoir.
Daniel Favre est professeur des universités en sciences de l'éducation. Il est titulaire de 2 doctorats, un en neurosciences et un en sciences de l'éducation.
Nous sommes à l'Université des sciences de Montpellier pour l'interviewer à propos de son livre « L'addiction aux certitudes ».
Les filles, c'est là le 25. Dans le bâtiment 25, on va rencontrer Daniel Favre.
Ce matin, on a vu le livre et on n'a pas compris. Il y avait des mots compliqués. On a plein de questions.
Qu'est-ce que c'est une certitude?
Vous avez compris comment on fabrique des certitudes? C'est quand chaque fois qu'on met le verbe être au présent de l'indicatif.
Ben, je suis nulle.
Je sais pas.
C'en est une, hein?
Je suis nulle à maths.
On connaît même pas nos tables.
Regarde le grand sourire que tu as pour dire on connaît même pas nos tables.
Elle est contente.
Il y a du plaisir dans la certitude. Tous les gens qui pensent qu'ils sont nuls en mathématiques, il est où leur plaisir? Vous le voyez ça, où il est le plaisir? Eh bien, le plaisir, c'est que si je suis nul en maths, je suis dispensé pour toute ma vie de faire des efforts en mathématiques. La chance. Et tous les malheureux qui, eux, ne sont pas nuls, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés de ramer, de faire des exos de maths de plus en plus durs. Et moi, le grand chanceux ou la grande chanceuse, la vénarde parmi les vénardes, je suis nul en mathématiques, dispensé, tranquille, même pas besoin de savoir les tables. Oh, merci, merci, merci. D'avoir fait que je suis nul en mathématiques. Voilà le plaisir de la certitude.
On est d'accord avec ça?
Comment devient-on dépendant d'idées de certitude?
Je vais vous donner un exemple. Comment vous avez appris que vous étiez un petit garçon ou une petite fille?
Mais oui, par le sexe.
Vous avez regardé en disant « Oh, je suis une fille !»
Par nos parents.
Et vous l'avez su avant de faire de la biologie, avant de faire des comparaisons. Donc on vous a dit à chacun, vous êtes une petite fille, tu es un petit garçon. Et ça, ça correspond en général à la réalité. Mais on croit qu'on nous dit qu'on est ça. Mais si les parents, la famille, les gens, les enseignants, tout ça, les copains, ils rajoutent autre chose. Tu es ceci, tu es pas cela, tu es ceci, tu es pas cela. Eh bien, tout ça fait qu'on a plein de certitudes. Et puis, il peut y avoir des certitudes sur le monde. On peut nous dire, Dieu existe. D'autres vont dire, Dieu n'existe pas, c'est une foutaise. Et tout ça, c'est présenté comme des certitudes. Et quand on est enfant depuis le plus jeune âge, ben on va y croire. Et ça devient certain. Et si on vient nous dire que notre certitude, elle n'est pas bonne, eh bien on a tendance à devenir agressif. Donc, tout simplement, j'essaie de vous dire qu'il faut surveiller ce qu'on prend pour des certitudes, parce qu'après, on est prêt à se battre, on est prêt à mourir pour des idées. Et l'être humain, contrairement aux autres animaux, eh bien lui, il est prêt à tuer et on est prêt à s'entretuer pour des idées. Et les gens meurent pour des idées, mais ils ne meurent pas pour des hypothèses. Et les hypothèses, c'est le contraire des certitudes. Donc essayons de faire des hypothèses. Pensons plus avec des hypothèses.
Vous pensez que ce n'est pas une bonne chose de mourir pour des idées?
Alors tout dépend si c'est mes idées à moi, mes idées propres, auxquelles j'adhère. C'est mes vraies valeurs, c'est à quoi je tiens, c'est à ce que j'aime. Ou alors si c'est les idées des autres. Et le problème, c'est que souvent, les gens qui meurent, ils meurent pour les idées des autres.
Merci.
Moi, ça m'a fait plaisir de vous voir. Et puis je pense que le monde de demain, c'est un monde où les jeunes se laisseront moins enfumer par les certitudes des autres. En tout cas, c'est le souhait que je fais. Et surtout, pensez bien, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit, plus on a acquis des mots nouveaux, plus on est fort. Avoir des mots nouveaux, c'est la puissance.
À l'école, je parle mal. Si t'es un élève du collège et que tu me cherches, je pars au quart de tour. Et je pète les plombs. Et il y a des chances que je t'insulte. D'ailleurs, sur mon bulletin, il y a marqué. Parle mal, doit se contrôler, doit faire des efforts sur son langage. Le langage, c'est vraiment mon problème. C'est plus fort que moi. Avant, j'avais pas envie de me contrôler. Aujourd'hui, oui, mais je n'y arrive pas encore. Dans mon dernier stage, j'étais en restauration. Si je t'en parle, c'est que j'ai aimé et que je veux en faire mon métier. D'ailleurs, les patrons veulent continuer à travailler avec moi. Une fois, un client m'a pris la tête. Il voulait que je lui propose du vin sur la carte, mais j'ai oublié parce que j'ai pas l'habitude. Il a commencé à me critiquer. Il me disait « t'es une mauvaise serveuse, tu sais pas c'est quoi le métier » et plein de trucs pas sympas. Ça m'a énervée au fond de moi. Je ressentais de la honte et de la rage. Alors je me suis mis à faire autre chose. Je débarrassais, j'allais chercher le pain, je faisais la plonge, je servais les clients au bar. Dès que je finissais un truc, j'en refaisais un autre. Et petit à petit, ma colère est passée. J'ai jamais parlé mal à un client, je me suis toujours contrôlée. C'est en stage que j'ai réalisé que j'étais capable de contrôler mon langage et de bien travailler. L'année prochaine, si je suis acceptée en apprentissage dans le service, j'en suis sûre que ça va aller mieux. Ça pourrait bouger beaucoup de choses dans ma vie. S'il te plaît, sois patient. Dans quelques temps, même si tu es un élève du lycée et que tu me cherches, je te répondrai plus tranquillement.
Merci d'avoir bougé avec nous.
C'était un petit pas pour nous.
Et un grand pas pour l'humanité.
C'était la troisième 1 du collège de l'Ensemble.
Pour réaliser cette émission, il y avait Marina,
Morgane,
Loïc,
Laura,
Jack,
Samuel,
Pedro,
Sébastien,
Priscilla,
Estelle,
les deux Olivia,
Pierre,
Romain
et Vanessa.
On remercie nos professeurs, Madame Lacoste, Madame Paola et Madame Richard, de nous avoir accompagnés durant toute la semaine.
On remercie Capucine et Tatiana de l'association Wakadi de nous avoir aidés à réaliser l'émission.
Et surtout, on vous remercie, vous les auditeurs, de nous avoir écoutés.
Allez, remuez-vous !
Remuez-vous !